Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paulousie Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, comme vous le savez, Israël s'apprête à sortir de son deuxième confinement. Ce traitement de choc contre le coronavirus a duré un mois. Épreuve difficile, socialement, économiquement, culturellement. D'autant plus difficile que ce confinement a été accompagné de confrontations violentes avec les religieux ultra-orthodoxes et sur fond de manifestations incessantes contre le Premier ministre Netanyahou. Nous avons demandé à Laurent Siget de nous éclairer sur ce pénible épisode de remise en cause de l'État. Laurent Siget est diplômé de l'Université hébraïque de Jérusalem, membre du Parti travailliste. Il dirige une entreprise ayant des points de vente dans tout le pays. Laurent, vous êtes là, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent. Alors, vous êtes citoyen israélien, vous payez vos impôts.
Petite correction, je ne suis plus membre du Parti travailliste.
Ah, vous n'êtes plus membre du Parti travailliste, alors vous avez laissé tomber.
Je ne suis plus membre du Parti travailliste, j'ai laissé tomber parce qu'ils se sont joints au gouvernement de Netanyahou.
Eh bien, écoutez, je ne vous poserai pas la question que j'allais vous poser là-dessus.
Voilà.
Donc, bon, Laurent Siget, vous êtes citoyen israélien, vous payez vos impôts, vous avez fait votre service militaire, vous avez été soumis au confinement total décrété par le gouvernement d'Netanyahou, hein, pour sauver des vies à cause de l'épidémie. Alors, je voudrais vous demander comment vous percevez la défiance des religieux ultra-orthodoxes à l'égard des efforts contre la pandémie et surtout comment vous expliquez leur violence vis-à-vis des institutions de l'État, que ce soit la police, l'armée, le ministère de la Santé ou de l'Éducation.
Alors, je vais vous répondre en deux temps. D'abord, premièrement, le premier confinement était un vrai confinement pour défendre la santé, pour défendre la santé publique. Donc, nous n'avons jamais remis en question le premier confinement. Et j'ai même fait des déclarations partout où j'ai pu, en disant que le gouvernement et M. Netanyahou, je ne partage pas ses opinions, mais lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, je le dis, donc a très bien géré le premier confinement, qui est un vrai confinement. Le deuxième confinement, auquel maintenant nous avons fait face, et maintenant nous en sortons lentement, est un confinement de type politique. Ce n'est pas du tout un confinement pour défendre la santé publique, c'est un gouvernement de type politique qui a été fait uniquement à cause de la faiblesse de M. Netanyahou vis-à-vis des ultra-orthodoxes. Parce qu'en fait, depuis le mois de juin, on a nommé quelqu'un qui était responsable de faire face au corona, qui s'appelle M. Gamzo, qui était l'ancien directeur général de l'hôpital Ichilov, qui est quelqu'un qui est connu, qui est quelqu'un qui est respecté, qui est quelqu'un dont on ne connaît pas les opinions politiques. Donc vraiment, c'est quelqu'un en qui le public israélien a toute confiance.
Mais c'est pas un élu.
M. Gamzo, oui, et c'est M. Gamzo avait proposé de faire un plan qui s'appelait le plan Carrefour, c'est-à-dire à trois couleurs, le rouge, le vert et le jaune. Et il avait dit, voilà, on va faire un confinement, un peu à la française, un confinement différentiel, un confinement local et un confinement en fonction des villes, parce que la pandémie n'a pas atteint toutes les villes de la même façon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé qu'en fait les 13 ou 14 ou à l'époque les 30 villes rouges, c'est-à-dire les villes les plus touchées par la contamination, étaient majoritairement à l'époque des villes, et encore aujourd'hui, des villes ultra-orthodoxes, encore aujourd'hui, et des villes ou des villages arabes. Les arabes, c'était dû principalement au fait qu'ils faisaient pendant la période du mois de juillet, août, beaucoup de mariages chez eux. Ça, on a arrêté le phénomène, ils ont très bien collaboré, les hommes politiques locaux, je ne parle pas d'hommes politiques au niveau national, je parle de maires.
Oui, des maires,
Des hommes politiques locaux ont pris ça sur eux, ils ont pris le problème à bras-le-corps, ils ont réussi à faire passer la pandémie dans le milieu arabe de 15-20% à 5-7%, ce qui est évidemment
intéressant, magnifique,
tout s'est bien passé. Le public ultra-orthodoxe, en fait, a refusé et a mis des conditions à M. Netanyahou, a dit il n'est pas question d'avoir un confinement différentiel. Nous ne comptons pas être enfermés seuls, c'est ou tout le monde ou personne. ça a été du chantage politique. Et comme M. Netanyahu est un premier ministre extrêmement faible, surtout face aux orthodoxes, ils sont très forts pour beaucoup de choses, ils sont très faibles face aux orthodoxes, face au corona et face au Hamas. En général, c'est face à ces trois phénomènes...
C'est des questions différentes.
Oui, mais c'est le même comportement. Et c'est ça qui est dramatique. Ils lui ont mis un ultimatum. Ils lui ont dit, c'est simple. Ou tout le monde va en confinement, ou personne va en confinement.
D'accord, Laurent Siger. Alors, on comprend bien. Mais on sait que la moitié des personnes hospitalisées pour coronavirus est issue de la communauté ultra-orthodoxe.
Justement.
Et qu'elle ne représente que 10% de la population. Est-ce que vous pensez... Est-ce que, franchement, est-ce qu'on peut dire que tous les juifs orthodoxes refusent les règles de confinement? C'est pas vrai.
Non, pas du tout. La communauté ultra-orthodoxe n'est pas un bloc homogène, c'est un bloc hétérogène. Il y a beaucoup de gens qui respectent. Mais le problème avec cette pandémie, c'est que si vous êtes dans une ville où 20, 30 ou 40% des gens ne respectent pas, les 60% n'ont pas d'influence. Parce que le virus, il se propage d'une façon dramatique. C'est à partir du moment où tout le monde ne collabore pas dans un certain endroit, ça n'a pas d'importance quel pourcentage de gens acceptent ou ne respectent ou ne respectent pas. Le virus se répand. Et c'est ce qui s'est passé. Même aujourd'hui, ce matin, qui a été publié dans l'Idiot, les résultats des nouveaux tests qui ont été révélés positifs, même lorsque le niveau est bas, ça reste encore 50-60% des gens viennent d'endroits ultra-orthodoxes. Le problème fondamental, c'est que pendant 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël, on leur a donné une certaine autonomie. Alors, entre les années 48 et M. Ben-Gurion qui avait décidé de permettre l'exemption du service militaire à 400 personnes suite à la Shoah et en voulant reconstruire le judaïsme, ce qui était une bonne idée à la base, il n'a jamais pu s'imaginer qu'on allait passer de 400 à 200 000. Donc, je veux dire, on leur a donné une autonomie dans l'éducation. Vous savez qu'en fait, l'éducation ultra-orthodoxe en Israël, c'est comme en France, une école indépendante, sans contrat de l'État, mais avec le subside de l'État.
Oui, ça, comme un contrat, une école sous contrat, mais qui n'a pas le contrôle de l'État. Ils font ce qu'ils veulent.
Il n'y a pas aucun contrôle de l'État. On ne sait pas ce qu'ils enseignent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent dans beaucoup de domaines.
Laurent Siger, pendant que les ultra-orthodoxes n'acceptaient pas et refusaient de se plier aux directives gouvernementales coronavirus, il y avait des manifestations démocratiques contre Netanyahou, contre sa politique sanitaire, économique, ainsi que ses affaires judiciaires. Et puis ces rassemblements, ils réunissaient des milliers de personnes. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi une source de diffusion rapide du virus? Est-ce qu'il n'est pas normal que dans ces conditions, les ultra-orthodoxes se sont sentis ostracisés?
Enfin, c'était le prétexte qui a été utilisé. Mais même quand les manifestations ont cessé, il y a 2 semaines, 3 semaines, suite à la décision du gouvernement d'empêcher les manifestations, on n'a pas vu que le virus a diminué dans les villes ultra-orthodoxes. Le problème, il n'est pas les manifestations. Moi, je ne suis pas hypocrite. Si j'avais vu, parce que je suis un homme qui essaie quand même d'avoir toujours une certaine logique, si j'avais vu qu'en allant aux manifestations, les gens qui allaient aux manifestations, les gens qui sont principalement centre et nord du pays, ramènent chez eux et contaminent leur entourage, j'aurais dit stop aux manifestations. Mais même le ministère de la Santé a déclaré que comme les manifestations se passaient à l'extérieur, que les gens avaient pour 99,9% des masques et se tenaient relativement à une certaine distance. La distance à Balfour n'était pas très respectée, mais il n'y avait pas de contamination. Vous savez, les gens qui venaient de Tel Aviv aujourd'hui a 2% de contamination pour une ville de 500 000 habitants. Okay. Donc je veux dire, les manifestations n'ont pas entraîné une augmentation de la pandémie. Au contraire, il y a les gens qui venaient de toutes ces villes venaient de villes vertes et sont restés dans des villes vertes pratiquement. Maintenant, on a empêché les manifestations pendant 3 semaines devant Balfour. On n'a pas vu une diminution dans les villes des gens où les gens venaient.
Donc, une dernière question.
Mais au niveau, je m'excuse, dernière chose. Psychologique, c'est évidemment. C'était le grand prétexte pour dire voilà, on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui manifestent et des gens qui soient. Mais être enfermé ou être à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Même aujourd'hui en France, on vous dit être à l'extérieur, ce n'est pas la même chose qu'être enfermé. Ce n'est pas pour rien qu'on empêche les mariages à l'intérieur, les restaurants, les bars, les cafés. C'est là où tout le monde sert, où il n'y a pas d'air.
On a bien compris. Vous savez, j'ai lu dans un grand quotidien populaire qui s'appelle Yediot Acharonot, un éditorialiste très très connu qui s'appelle Ben Dror Diemani, et comme son nom l'indique, qui est très à droite, qui a titré...
Pas du tout. Bah, on... C'est un homme de centre-gauche.
Ah, bon. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, là, de toute façon, l'émission se termine. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Siget.
Au plaisir.
Au revoir. Au revoir. Alors, bonne semaine à tous. Et c'était Paul Ouzimir sur l'antenne avec Chronique pour la paix. À la semaine prochaine. À dans 15 jours.